RMC, Tim Dugas, Christophe Dugarry et Thierry Henry.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Team Dugas pour une émission exceptionnelle. Et oui, nous sommes à Londres avec tout simplement l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot français. Thierry Henry nous accompagne pendant 2 heures. Salut Titi. On a plein de choses à lui demander, forcément, aujourd'hui.
Ah oui, plein de choses, plein de sujets à aborder avec Thierry. Déjà, quand même, puisqu'on va aborder toute l'actu, évidemment. Thierry, comment vous trouvez Dugas comme animateur radio?
Ben déjà la voix me rappelle un peu Pierre Belmar qui a bercé mon enfance. Donc voilà. Non, bien, on m'a dit que c'était le patron. Ah bah, le patron du football en France, c'est ce qu'on m'a dit, donc on va bien voir.
C'est déjà le patron tous les soirs sur RMC entre 18h et 20h dans Team Dugas. Alors Thierry, rare dans les médias français, donc profitez-en pendant 2 heures, Thierry Henry avec vous sur RMC. On va pouvoir aborder toute l'actu du foot, puisque je crois que Thierry regarde toujours autant de matchs
au quotidien. J'essaye, ouais.
La Première Ligue, évidemment, l'équipe de France, le football français, la carrière de Thierry, sa vie actuelle. On va aborder tous ces sujets ensemble, évidemment. On est en direct de Londres pour cette émission exceptionnelle, donc. Émission qui a été enregistrée un peu plus tôt dans l'après-midi. On n'oublie pas les directs. Dans une heure, il y aura la 24e journée de Ligue 1 avec Caen, Bordeaux et Montpellier-Monaco. Mais tout de suite, Dugas, on y va. Thierry Henry est avec toi dans Team Dugas.
Bon, justement, tu te fais très rare dans les médias. Pourquoi? C'est un exercice que tu n'aimes pas, qui te plaît pas, ou tu te préserves un petit peu?
Non, pas du tout. Le truc, c'est que, par exemple, il y a eu beaucoup de demandes quand je suis arrivé second assistant avec l'équipe, je tiens à le souligner, second assistant avec l'équipe de Belgique. Beaucoup de demandes, mais aussi beaucoup de demandes en Belgique. Et je n'ai pas parlé en Belgique et je n'ai pas parlé aussi en France. J'attendais justement que tout se calme, parce qu'il y avait un moment.
Il y a eu beaucoup d'effervescence autour de ton poste, oui, et de ton rôle d'entraîneur en Belgique. Donc tu voulais d'abord parler aux médias belges avant de parler.
Oui, voilà. Et donc j'ai parlé aux médias belges il y a pas longtemps. Donc voilà, je suis là avec vous, tout simplement.
Allez, magnifique. Justement, c'est quoi aujourd'hui tes occupations? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis à Londres?
Je vis à Londres.
Donc, ouais. Tu partages ton temps entre la télé, entre Sky et ton rôle d'entraîneur, c'est ça?
Sky, mon rôle d'entraîneur, et je suis en train aussi de passer mes diplômes.
D'accord.
Donc j'essaye d'avoir ce qu'on appelle le pro license, le dernier.
D'accord. Permet d'entraîner.
Normalement, tu peux déjà entraîner. Quand tu es en train de passer le pro license, tu peux déjà entraîner une équipe. Mais
de quel niveau? De première ligue?
Non, de tous les niveaux. Mais bon, j'étais pas encore, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que le rôle de second assistant avec l'équipe de Belgique, est parfait. Ça me permet d'apprendre. J'ai eu un vécu et j'ai eu une carrière, mais maintenant faut repartir de zéro. Et passer par le commencement, tout simplement.
Justement, c'est un peu comme a fait Zizou, c'est-à-dire tu veux repasser un petit peu les gammes, apprendre un nouveau métier. T'es en train d'apprendre un nouveau métier.
Oui, je suis en train d'apprendre un nouveau métier et c'est vrai que maintenant d'être de l'autre côté de la ligne, de cette fameuse ligne blanche, je vois que c'est vraiment difficile d'être coach. Vraiment difficile, surtout de nos jours. C'est vrai que nous, Dugas, je pense que on a connu une génération où tais-toi et joue. Voilà, il n'y avait pas d'explication. Si tu jouais pas, t'avais pas d'explication de ton coach. Il fallait que tu trouves une solution toi-même. Maintenant, il faut tout expliquer aux jeunes. Il faut tout leur dire. Il faut être le père des fois, la mère des fois, des fois le policier,
et
des fois souvent la nounou. Ouais, t'as raison. Mais pas seulement ça. Préparer une séance. D'un seul coup, tu arrives, tu prépares une séance, d'accord, tu prépares une séance de, je sais pas, t'as 16 joueurs, 17 joueurs, et d'un seul coup, le matin, il y en a 3, ils te font, ah, je peux pas m'entraîner, ou 4. Donc la séance, ça change. Les dimensions de ce que tu voulais faire, de ce que tu voulais faire aussi, changent. Faut ressortir sur le terrain, refaire ce qu'il y a à faire, et ça, 10 minutes avant l'entraînement. Et là, je me rends compte que aussi nous Dugas, on n'était pas vraiment facile à gérer des fois aussi. Mais maintenant, je le vois plus clairement de l'autre côté, et je vois au quotidien. Enfin, au quotidien, c'est pas tout le temps, puisque je suis pas tous les jours avec l'équipe de Belgique, puisque c'est le niveau international. Donc, j'y vais seulement quand il y a des matchs de qualification. Mais je vois comment c'est dur. Tu dois gérer les joueurs. Tu dois gérer la presse. Tu dois gérer le club. Tu dois tout gérer. Et à l'arrivée, quelque part, on s'en fout du coach. Qui pense au coach? Moi, quand j'étais joueur,
quand tu perds, quand ton équipe perd, tu penses au coach.
Oui, non, mais je veux dire, tu penses au coach, mais je parle de.
Ah, le joueur, il pense pas au coach. Oui,
voilà. Le joueur, il pense pas au coach. Mais quand je parle de penser au coach, du bien-être du coach. Ce que tu veux savoir du coach, c'est pourquoi il a pas fait jouer
Bien sûr.
C'est quoi cette tactique?
Ouais.
Et moi, j'aurais mis lui. Ouais. Et moi, j'aurais mis ça. Quand t'es joueur, tu viens frapper. Pourquoi j'ai pas joué? Ça fait un petit moment que vous me parlez pas. Ou peu importe ce qu'il y a, mais est-ce que tu demandes un jour à ton coach? Moi, personnellement, j'ai jamais fait. Coach,
ouais, alors que le joueur, on se soucie. Est-ce qu'il est en forme?
Oui,
est-ce qu'il va bien à la maison? Est-ce que
tout le monde?
Bien sûr.
Tout le monde. Même en tant que journaliste, tu fais. En ce moment, il est pas bien. Il a un problème à la maison ou pas à la maison. J'ai entendu dire que.
Ouais.
Mais le coach, on s'en fout complètement.
Et justement, malgré ça, c'est toujours ton choix. Tu es sûr de toi, tu veux être coach numéro un jour.
Mais
tu veux prendre le temps.
Dans les règles de l'art, ça s'apprend. Ça ne veut pas dire que tu voyais quelque chose sur le terrain. Ça ne veut pas dire que tu peux le transmettre. Il faut apprendre. J'apprends énormément à l'heure actuelle avec le coach, avec l'équipe de Belgique. J'apprends.
Roberto
Martinez. J'apprends aussi. J'ai appris d'autres entraîneurs. Mais dans les règles de l'art. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une carrière, mais voilà, ça va 5 minutes. Maintenant, il faut passer à autre chose et il faut surtout apprendre.
Mais alors justement, si votre objectif c'est d'être entraîneur numéro 1, pourquoi ne pas faire le travail que vous faites avec la Belgique dans un club pour être justement confronté à ces réalités au quotidien?
Ben c'est très simple. J'ai eu la chance de, en tant que joueur, de toujours, j'ai toujours fait mes choix. Et à un moment donné, j'ai réussi à rester à un certain niveau où je pouvais choisir. Mais quand t'es coach, tu choisis rien du tout. Faut attendre que le téléphone sonne.
Ouais.
Et donc j'ai eu cette opportunité. Et c'est une opportunité qui justement rentre dans ce que j'essaye de faire à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est tout simple.
Tu n'as eu aucune autre opportunité? Tu dis que tu as pris celle-ci parce que c'est la seule qui est arrivée.
Laisse-moi bien réfléchir. Hein. À ce niveau-là, où ce que moi je recherchais,
c'est te laisser du temps pour avoir ton diplôme,
bien sûr,
et en même temps continuer à découvrir le monde professionnel, une sélection.
Mais j'ai pas aussi fini le troisième degré.
Ouais.
Donc à un moment donné aussi, il faut pas. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, mais ça rentrait bien dans second assistant. Parfait. J'apprends. Je suis toujours en train de passer finir le troisième degré, donc c'était aussi parfait. Ne pas non plus encore une fois comme je le disais tout à l'heure, aller trop vite. Pas aller trop vite. Et là, je suis encore toujours en train d'apprendre dans le feu de l'action.
Justement, tu veux être coach, tu as eu des grands coachs. Tu seras un coach comment par rapport c'est toujours compliqué.
Mais attends, juste Duga, pardon.
Vas-y.
Parce que je sens que c'est un sujet qu'il va falloir développer. Juste sur cette histoire d'opportunité quand même, on en a parlé avec Noël Le Graët quand il est venu.
Ah oui, tu veux revenir directement sur
juste
ça.
Là-dessus,
sûr,
quand même,
sûr,
pour
vas-y,
terminer.
Vas-y, vas-y.
Parce que nous, quand on vous a vu aller en Belgique, moi le premier réflexe que j'ai eu, on s'est tous dit pourquoi Thierry Henry ne fait pas ce travail-là en France, avec soit Didier Deschamps ou soit avec la fédération, avec une sélection de jeunes. On avait parlé des espoirs avec Noël Le Graët quand il était venu dans Team Duga. C'est donc une question d'opportunité. Ça veut dire que jamais quelqu'un de la Fédé ne vous a appelé.
C'est difficile pour moi de parler de choses que je ne peux pas vraiment. Je peux pas rentrer dans ce dialogue-là. Franchement, je peux pas dans ce débat-là. Pardon. Encore une fois, je me retrouve dans une situation où j'ai une offre. Donc, tout simplement, je la prends.
Mais donc ça aurait pu être possible si le téléphone avait sonné.
Oui, mais là on rentre dans les si, donc moi je ne sais pas, je préfère pas rentrer dans ce genre de débat, franchement.
Mais justement, Le Graët nous a expliqué, alors on aurait dit, on lui a posé la question, mais même adjoint de Deschamps, Thierry Henry qui s'occupe des attaquants, ça serait quand même assez génial. Il a dit, faire cohabiter deux personnalités, Deschamps Henry, ça serait compliqué.
Je peux pas parler pour les autres. Personnellement, tout ce que je peux vous dire, c'est que à l'heure actuelle, moi, je suis dans un mode apprentissage. C'est vrai, du gars, tu m'as connu, je t'ai connu aussi. On n'était pas facile à gérer comme tous les autres, et c'est tout à fait normal. T'es dans un, quand même. Moi, j'étais en mission personnellement. Donc voilà. Mais maintenant, je suis rien du tout. J'essaye de savoir et de connaître le job. Après, franchement, je vous le dis encore, hein, je n'en veux à personne. Ouais. Je rien du tout. J'ai un énorme respect pour Monsieur Le Graët, un énorme respect pour tout le monde. Mais d'un autre côté, j'ai eu une offre, c'est tout, et je l'ai prise.
Et du coup, si je comprends bien votre réflexion, le rôle de sélectionneur même des espoirs, ce serait trop tôt si vous êtes dans cette démarche d'apprentissage pour l'instant ?
Non, mais là, on rentre dans le même débat encore.
Okay.
Ce que je vais vous dire, c'est que je ne peux pas parler d'un truc qui n'est pas venu.
Oui,
c'est toujours moi, ma façon d'être. Donc je parle de ce qu'on m'a proposé et en l'occurrence c'est quelque chose que j'avais besoin de ça à ce moment-là, et en plus je suis dans le vif du sujet quand même, parce que aussi dans l'apprentissage se retrouver aussi dans des qualifications pour une Coupe du Monde, t'apprends aussi beaucoup plus vite que si tu faisais quelque chose d'autre. Donc voilà.
Mais globalement, que ce soit toi, Zizou, même si Zizou c'est peut-être un cas un petit peu à part parce que Zizou il a eu la chance d'entraîner un club comme le Real Madrid, ça se refuse pas. Enfin bon, même s'il a appris avant, enfin bon, c'est un cas peut-être un petit peu à part. Mais Patrick Vieira aussi notamment, vous êtes contacté pour travailler dans des championnats étrangers et vous n'êtes pas contacté pour travailler avec la Fédé ou en Ligue 1 ou dans l'autre championnat de France. Je trouve que c'est juste inimaginable et un peu catastrophique pour notre championnat et pour notre football, pour le football français. Est-ce que tu trouves ça dommage? Est-ce que tu penses qu'il y a des explications derrière? Est-ce que par exemple, non. Je sais pas,
Non, je pense encore une fois, c'est juste une suite logique. Pat, il a arrêté à Manchester City. On lui a proposé quelque chose là-bas, donc il a dit oui. J'ai eu la chance de.
Ouais, ça t'interpelle pas que ton pays t'appelle pas, que t'as fait des. Ça t'interpelle pas.
Non.
Nous, ça nous interpelle, les observateurs. Franchement, ça m'interpelle.
Franchement, du gars, je suis même pas. Franchement, je suis vraiment honnête là-dessus. Ça m'interpelle pas. Parce que pour moi, c'est juste une suite logique où tu termines. Pas t'as terminé à Manchester City. Je ne sais pas, après je vais pas demander où ils voulaient se retrouver ou pas, mais on a tous eu une fin de carrière.
Pardon, mais vous avez pas terminé à Anderlecht ou à Charleroi? Vous
oui,
avez
mais
pas fini en Belgique.
D'abord je parle de Pat et après je parle de Monsieur Jardin.
J'ai anticipé un peu,
c'est surtout ça. Mais Pat, il termine à Manchester City, fin de carrière. Pat, est-ce que tu veux rester au club? Bah il dit oui, tout simplement. Maintenant, c'est au niveau du coaching. Je reviens avec moi. J'ai eu la chance de côtoyer Roberto Martinez sur des grandes compétitions. On a parlé de football. On a eu une discussion, mais ça en est resté là. Et donc après ça, je reçois juste un coup de fil pour savoir si ça m'intéresserait d'être coach avec lui. Voilà.
Ouais. Et
une proposition. Je reste dans la proposition.
Ouais. Tu restes dans le concret.
Voilà. Donc.
Mais Arsenal, il y avait quelque chose de concret.
Quand tu regardes bien, pas vraiment. Moi, j'étais là-bas en fait. J'étais pas un employé d'Arsenal. J'allais là-bas pour passer. Tu sais, à un moment donné, quand tu arrives deuxième degré, faut que tu sois sur le terrain. Faut que tu aies des heures. Faut que tu sois sur le terrain. Et donc, j'ai demandé gentiment à Arsène si je pouvais aller là-bas. Et il m'a dit oui. Donc voilà, je me suis retrouvé là-bas. Après, le boss de l'académie m'a proposé d'être coach des moins de 18. Je pense que vous avez vu que ça s'est pas fait. Donc je respecte le choix du coach. Donc voilà. J'ai rien inventé.
Non mais que toi ça te Ok, toi t'es dans le concret, t'es pas là pour polémiquer, mais tu comprends que ça puisse choquer les supporters d'Arsenal ou que ça puisse choquer les supporters français,
franchement,
les Français, que ça les dérange. On a envie de te voir avec les jeunes d'Arsenal, on a envie de te voir peut-être pour commencer avec les jeunes Français, on a envie de voir Thierry Henry, tout ce qu'il a appris, toute sa progression de Monaco jusqu'à Arsenal, tout ce qu'il a vécu, tout ce qui.
Je comprends, du gars. Franchement, je comprends.
Enfin, oui. Je peux pas aujourd'hui, moi qui apprécie le football, je peux pas ne pas voir Thierry Henry, Patrick Vieira, on a la chance de voir Zinedine Zidane,
oui.
Proposer quelque chose, un football, apprendre des trucs à des jeunes ou même des moins jeunes.
Non,
c'est pas possible d'imaginer le football autrement. Et on a la chance d'avoir, tu es français, Patrick Vieira est français, Zinedine Zidane est français, que ce soit les Français qui puissent bénéficier de ça. On a eu la chance d'avoir des joueurs extraordinaires dont tu fais partie. Si on s'en sert pas pour faire progresser notre football, pour faire progresser nos attaquants, pour faire progresser nos joueurs, c'est quand même, on passe à côté de quelque chose d'incroyable.
Du gars, je comprends. Franchement, je comprends ce que tu dis, mais après, tu me demandes, moi, dans ma réflexion. Ma réflexion, elle est dans, j'ai besoin d'apprendre. Sur ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je ne peux pas retourner et voir le mec qui me fait passer mes diplômes. Je ne serai pas sur le terrain cette année. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a aussi, je suis dans le mode apprentissage. J'ai besoin d'être sur un terrain.
Alors, justement, concrètement, quand il y a un rassemblement de la Belgique, c'est quoi votre rôle? Est-ce que c'est un rôle de, je sais pas moi, de supervision des attaquants?
Non,
de
non.
Concrètement, vous faites quoi? Vous mettez les plots? Comment ça se passe?
Oui, je mets les plots et je suis content de mettre les plots.
Oui, il n'y a rien d'infamant non plus.
Non, mais blague à part. C'est vrai que souvent tout le monde, parce que bon, de par ma position en tant que joueur, tout le monde parle de attaquant. Mais je suis pas là-bas avec l'équipe de Belgique pour m'occuper des attaquants. Je suis là pour aider le coach en tant que second assistant. Donc quand il y a une mise en place d'une séance, j'ai un exercice à prendre avec son assistant qu'il a depuis 10 ans, et donc je suis là aussi pour prendre la séance. Le coach toujours s'occupe de la partie tactique, c'est ce qu'il aime faire.
Tu participes aux compositions d'équipe également?
On a les discussions. La décision reste toujours la décision du coach. On a une décision de staff sur la préparation de l'entraînement, contre qui on va jouer,
l'adversaire,
les joueurs qu'on va mettre sur le terrain, mais la décision finale c'est toujours celle du coach. Mais il nous consulte à l'entraînement. Je prends des exercices avec l'entraîneur adjoint. Donc moi je suis le deuxième adjoint, et il y a le préparateur physique aussi qui est là. Mais c'est vraiment une équipe. Le staff est, on a un boss, c'est Roberto Martinez. Donc voilà. Après oui, c'est vrai, souvent quand il y a des trucs à faire, un travail avec les attaquants, parler, mais pas seulement aux attaquants, je parle aussi à tout le monde. Du moment qu'on reste dans le thème de la séance, le coach est vraiment extraordinaire sur ce plan-là, parce que il t'autorise à parler aux joueurs, et je pense que ça aussi c'est vraiment important. Mais encore une fois, je reviens dans l'apprentissage où et j'apprends énormément avec ce coach, parce que sa façon de voir les choses, sa façon de mettre son équipe sur le terrain, sa façon de faire évoluer son équipe, c'est exactement aussi moi ce que j'aime. C'est pour ça aussi quand il y a eu cette discussion, peut-être c'est là où il a vu qu'il y avait quelque chose qui passait.
C'est bluffant, Duga, cette humilité quand même. Je me tourne vers Duga parce que Thierry en a peut-être pas conscience, mais de voir qu'un joueur avec son palmarès est capable de repartir au bas de l'échelle, même dans un rôle où il n'est pas décisionnaire directement de deuxième assistant. Toi, ça t'étonne pas parce que tu le connais sans doute.
Moi, je suis pas surpris. Ouais. Je suis pas surpris quand tu vois la progression de Thierry Henry, depuis tout jeune. C'est toujours un garçon qui a évolué dans le plus grand respect des anciens, l'envie d'apprendre, l'envie de progresser. Donc je suis pas surpris que ce soit Patrick Vieira, que ce soit même Zizou. Il suffit de connaître un petit peu ces garçons pour s'en rendre compte. Donc je suis qu'à moitié surpris de ce que j'entends. Et c'est pas un garçon arrogant, prétentieux qui va arriver dans un endroit et dire voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc oui, mais c'est là aussi la meilleure façon d'apprendre. C'est un garçon aussi intelligent et il sait que c'est la meilleure façon d'apprendre. Si t'arrives sans connaître véritablement le truc, tu vas te faire broyer à la première erreur. Il vaut mieux d'abord apprendre les choses avant de l'ouvrir.
C'est toujours
un peu mieux.
Toi, t'as fait pareil à la radio.
Ouais, merci.
Hein, c'est ça. Thierry Henry avec nous sur RMC dans Team Duga, émission exceptionnelle en direct de Londres. On a encore plein de sujets à aborder avec Thierry qui nous accueille. Émission exceptionnelle donc jusqu'à 20h sur RMC. À tout de suite.
RMC 18h-20h.
Thierry Henry toujours avec nous, émission exceptionnelle en direct de Londres, donc jusqu'à 20h sur RMC. Thierry, vous nous avez parlé notamment de votre humilité au poste de deuxième adjoint de Roberto Martinez en sélection de Belgique. Quand on entend ça, on se dit que dans le football d'aujourd'hui, un joueur qui a votre carrière, votre palmarès, j'en parlais juste avant, aurait du mal à repartir peut-être au bas de l'échelle. Mais ce respect pour la hiérarchie ou même pour les anciens, c'est quelque chose qui vous a toujours habité tout au long de votre carrière.
Bah oui, parce que pas seulement Duga.
Quand il a fallu mettre Duga sur le banc, par exemple, vous l'avez fait avec respect.
Pas parce que. Non, franchement, c'est pas parce que Duga, il est là.
Quel honneur! Quel honneur d'être remplacé par un joueur comme ça. Quel honneur!
Non, mais franchement, je pour pouvoir avancer, il faut d'abord connaître son histoire. Il y a l'histoire de la vie, et après, bon, maintenant, en l'occurrence, on parle de sport, donc il faut connaître son histoire. Il faut connaître, Il faut connaître les mecs qui sont passés avant. Il faut connaître les Marius Trésor. Il faut connaître Platini. Il faut connaître Tigana, Gires, Fernandez. Il faut connaître les Batistons. Il faut connaître tous les mecs qui sont passés avant. Je vais pas citer tout le monde. Fontaine, Copa. Il faut connaître son histoire. Et surtout, il faut essayer de, quand tu mets ce maillot bleu, après, d'élever l'histoire encore plus haut du pays. Donc voilà. C'est ce que j'avais. Quand j'étais petit, c'est ce que les gars m'ont aussi dit quand je suis arrivé, c'est ce que Duga m'a dit, c'est ce que Tutu m'a dit, c'est ce que Zizou m'a dit, c'est ce que Dédé, je vais passer de toute l'équipe, Manu, Fabien, Bernard. Pourquoi tu rigoles, Duga, je comprends pas.
Bah pourquoi tu rigoles?
Non,
faut
rien.
Ah bon.
Parce que non, voilà. Non. Pas, il le prend mal.
Non, pas du tout.
Il aime bien parler, Bernard.
Ah, d'accord. Non, franchement, respect. Pour moi, respect. Mais à un moment donné, le respect que tu as envers les anciens, c'est le respect de c'est eux qui ont ouvert la voie, ceux qui sont passés avant, et c'est eux qui t'inculquent les valeurs du foot, les valeurs de l'équipe que tu, par exemple, à Monaco, ou que ce soit en équipe de France. Mais après, avec tout ce qu'ils t'ont inculqué, tout ce qu'ils t'ont donné, tout ce qu'il faut respecter, et les ramasser les ballons, et porter les sacs, et les buts, et tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a dû faire, et si c'était à refaire, je le referai. Parce que ça m'a forgé. Mais après, quand il faut mettre Duga, ou Yuri, ou quand je suis arrivé à Arsenal, un Dennis Bergkamp sur le banc, c'est aussi un respect de lui montrer pourquoi il est sur le banc. C'est-à-dire que, premier à l'entraînement, premier aux exercices, et je te montre aussi dans les matchs pourquoi tu joues pas. Ça, c'était aussi pour moi un respect envers les anciens. Vous m'avez montré quelque chose. Eh ben, j'ai écouté. Et à un moment donné, on dit toujours que l'élève dépasse le maître. Et c'est tout ce que j'avais envie de faire. C'est tout, point barre. Après, est-ce que c'était bien ou pas bien? Des fois, c'était vraiment nul. Mais bon, on essayait toujours de respecter un peu ce que les anciens nous ont donné. Ils t'ont donné quelque chose pour que tu puisses le dépasser quelque part. Et non pas rester là, regarder les mecs, oh merci, c'est super. Non. Il faut leur montrer pourquoi. Il faut leur montrer aussi que tu as bien écouté. Donc quand bon, on n'avait pas le même numéro, on n'avait pas le même. Mais quand ils te donnent ce maillot pour que tu puisses aller sur le terrain, quand tu le regardes après, quand tu rentres dans les vestiaires, il faut que tu puisses le regarder en disant, voilà pourquoi tu joues pas. Mais on est une équipe et c'est peut-être toi qui vas nous sauver plus tard, peu importe. Là, je rentre dans trop de détails. Mais le respect est toujours là. Quand je vois du gars, il peut être à l'opposé de la salle et j'irai lui dire bonjour moi d'abord. Pareil avec Manu Petit, pareil avec peu importe qui c'est, hein, il peut être à l'autre bout de la... Et je veux raconter une anecdote qui est très rapide. Du gars, tu te rappelles qu'on t'étais avec nous encore quand on bat l'Allemagne, le lendemain on va jouer un match
Kirchen 3-0, c'est ça?
Oui, et puis on joue un match après à Bordeaux, un match de charité.
Ah oui.
Tu te rappelles?
Ouais.
Et Marius Trésor, il est rentré dans les vestiaires. Pour moi, là, à ce moment-là, tout le monde prenait sa douche. Le temps, il s'est arrêté. Pour moi. Et mais ça, après, non, c'est pas parce que c'est un Antillais, n'allez pas.
Non, mais bien sûr.
Bien sûr. Ça aurait pu être n'importe quel ancien joueur. Le temps s'est arrêté. Mais je regardais tout le monde et tout le monde continuait à faire ce qu'ils avaient à faire. Et Marius Trésor, il est rentré dans les vestiaires quand même. Ouais. Quand même, il est rentré dans les vestiaires. Ouais. Et il venait me chercher pour aller parler à la presse. Pardon? Déjà, je lui ai dit bonjour. Et puis, je savais pas quoi lui dire, déjà pour commencer aussi. Et quand même, c'est Marius Trésor. Donc, j'ai toujours ça en moi. Après, oui, après, Duga va vous le dire sur quand j'étais sur le terrain et dans les vestiaires, j'étais pas toujours facile à gérer parce que c'était ma façon d'être, parce que je voulais toujours donner le maximum. C'était pas toujours le cas, bien sûr. On l'a bien vu.
Ah, t'avais une exigence, ouais.
Ça, oui, voilà. Et bon, c'est pas toujours évident. C'était ma façon d'être. Mais après, quand on sortait du terrain, j'essayais toujours de rester de rester où je dois rester.
Tu penses que ça existe, ce respect, cette humilité, elle est un peu disparue, toi qui t'intéresses toujours autant au football, qui regarde tous les championnats
tu penses qu'elle est un peu disparue? C'est difficile parce que tu peux pas comparer les générations. Est-ce que nous aussi on a passé ça? À un moment donné, on l'a plus passé aussi. Donc est-ce que c'était accepté aussi? Attention, c'est peut-être aussi il y a eu une cassure parce que t'essayais d'inculquer ça, mais est-ce que c'était accepté? C'est pas toujours évident. Je disais,
tu penses que ça manque?
Ouais, énormément, personnellement. Mais je vais toujours te dire ça. J'ai été éduqué à la dure. Je peux pas te dire autre chose. Donc, est-ce que je suis vraiment objectif là-dessus? C'est vraiment difficile pour moi.
Opinion.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas vraiment comparer. Puisque je ne connais pas cette nouvelle génération, j'ai pas grandi avec cette nouvelle génération, j'ai pas grandi avec un iPad, j'ai pas grandi avec.
Oui, mais
un
vous l'avez téléphone. Côtoyé à la fin de votre carrière quand même.
Oui, mais pour comprendre une génération, faut je la comprenais, hein. je la comprends. Mais moi, je vais toujours te dire que c'est mieux de l'autre côté, parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est tout à fait normal. Donc tu vis dans un monde où maintenant la génération pense. Attention, je dis bien, faut insister sur le mot pense. Qu'elle sait beaucoup plus que toi, pardon. Ils pensent qu'ils sont plus armés, qu'ils sont déjà prêts, parce qu'ils ont aussi. Attention, revenons aussi au vrai débat. J'avais mon contrat aspirant et j'étais bientôt champion de France. Contrat aspirant. Du gars, on va pas sortir les chiffres, mais on les connaît.
Ah bah oui.
Est-ce que aussi, du gars, si on nous avait mis ou si on nous avait donné ce que la nouvelle génération a maintenant, est-ce que
t'es plus dans la soif d'apprendre, t'es plus dans la soif de découvrir. Voilà.
Thierry Henry avec nous sur RMC dans Team Duga pour cette émission exceptionnelle, donc jusqu'à 20h sur RMC.
On va parler Première Ligue et Arsenal un petit peu. Voilà, c'est le club que tu as clairement marqué de ton empreinte pendant 8 saisons. Aujourd'hui, les résultats sont mitigés. 2 défaites d'affilée. Arsenal sort d'un match assez catastrophique face à Chelsea. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Cette équipe plafonne, cette équipe a du mal. Moi, je trouve qu'elle manque de talent, qu'elle manque de leadership. Elle a 2-3 joueurs de talent, mais elle manque de caractère, elle manque de compétiteurs. Voilà, qu'est-ce que toi tu en penses sur cette équipe, Titi?
Alors, personnellement, ça fait un petit moment que non seulement en tant que gars qui doit analyser le championnat, mais c'est mon équipe aussi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à avaler, surtout ça fait 12 ans, 13e saison là maintenant que Arsenal n'a pas gagné le titre. Mais il y a la qualité, je pense qu'il y a de la qualité.
Moi je pense qu'elle a passé.
Non, mais est-ce qu'il y a assez de qualité pour gagner le championnat? Et tu regardes sur le papier, on peut débattre, hein. C'est vrai, on peut débattre. Mais sur le papier, je te parle pas maintenant des performances des joueurs sur la saison, mais au début de la saison, quand tu prends sur le papier, tu regardes les deux équipes.
Oui, je suis d'accord.
Donc, c'est possible. C'est pour ça que je reviens toujours au même débat. Si Chelsea est devant, et il mérite d'être devant, mais si Chelsea est devant, Arsenal aussi peut être devant. Mais par contre, attention, faut se mettre au diapason tous les jours. Il faut être bon à l'entraînement tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures. Il faut se rentrer dedans un peu de temps en temps, du gars.
Tu penses que cette équipe manque d'envie?
Je pense que cette équipe a la qualité, mais je pense qu'ils sont aussi pas conscients de ce qu'ils peuvent réaliser. Et à un moment donné, il faut croire que tu puisses gagner. Il faut qu'il y ait une autogestion, une autodiscipline aussi dans
ça. C'est la compète, c'est l'esprit de compétition. Un compétiteur, un joueur professionnel se doit d'avoir ça. Un joueur professionnel qui n'est pas compétiteur.
Mais des fois,
un club comme Arsenal, il a rien à faire à Arsenal.
Oui, mais des fois, tu sors du, tu sais pas pourquoi, tu te réveilles et c'est la fin de la saison.
C'est emmerdant.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous. Regarde, on a eu des équipes extraordinaires à Arsenal. Ça aussi nous est arrivé, de pas gagner le titre.
Non, bien sûr.
Et à un moment donné, il y a des trucs qui t'échappent. Mais quand.
Ça fait 12 ans, Titi.
Oui, c'est vrai, ça fait 12 ans.
Ça fait 12 ans, c'est pas une année où on s'est dit, bon, mais ça nous a échappé. Là, ça fait 12 ans que ça leur échappe. Ça fait 12 ans que le scénario, il est identique. À un moment ou l'autre, faut se poser la question. Arsène Wenger, est-ce que c'est le moment qu'il parte?
Je ne pense pas qu'Arsène doit partir. Personnellement, est-ce qu'il doit monter au-dessus?
Est-ce qu'il doit changer sa façon de faire peut-être?
Est-ce qu'il doit changer sa tactique? Est-ce qu'il doit changer sa façon de faire? Je ne sais pas si le coach est prêt à faire ça. Mais le travail qu'il doit effectuer à l'heure actuelle est un travail difficile parce que c'est un travail mental. C'est un travail mental. C'est pas vraiment parce qu'à un moment donné, du gars, oui, c'est vrai, tactique ça aide. On va pas mentir. Mais à un moment donné, là, ce que j'ai vu contre Chelsea, c'est un problème mental.
Ah oui.
C'est un problème mental. C'est ce que je vois depuis un petit moment. Ce que je vois, par exemple, et pas pour rentrer dans les détails, mais c'est là où le travail d'Arsène est vraiment compliqué parce que c'est un problème mental et c'est pas évident à gérer tout ça. Mais à chaque fois qu'Arsenal peut mettre la pression sur le premier ou mettre la pression en étant premier, en général, ce match-là, ils le perdent. C'est, et c'est là où ça devient après difficile, parce que tu commences à perdre de la confiance, et les mauvais résultats s'enchaînent, et le problème est là. Mais le problème, pour moi, il est plus mental que qualité, parce que si Leicester peut gagner le championnat,
ah oui non mais ça tout
non,
est possible.
Non mais c'est pour ça que je reviens sur si tu as la mentalité, allez, ok, tout arrive après.
Il y a pas assez de winners dans cette équipe.
Pour l'instant, il est vrai que, enfin, c'est même pas moi qui le dis, quand tu regardes bien, ça fait quand même 12 ans sans titre, c'est qu'il manque, quelque chose. Et les stats sont là pour le dire.
Bon. Comment tu juges l'évolution de la première ligue? Il y a toujours de plus en plus de moyens, de plus en plus de spectacles, mais pas de résultats sur le plan européen. Est-ce que tu penses que la première ligue est le meilleur championnat, du monde?
Je pense que c'est le meilleur championnat sur le plan, surtout. Quand tu regardes deux équipes de bas de tableau jouer, le stade il est rempli. Tu regardes ça en général dans d'autres championnats, je sais pas si tu vois ça. Peut-être l'Allemagne aussi c'est costaud au niveau du public. Après, y a qu'en Angleterre aussi, tu peux voir Liverpool mener 3-1 à Bournemouth et il reste 15 minutes et ils perdent 4-3.
Championnat spectaculaire, mais est-ce que c'est le meilleur en qualité, le plus compétitif? Notamment, moi, je pense que le championnat espagnol, et on le voit par les résultats, les beaucoup plus. Qu'en penses-tu?
Tu sais quoi, on pose souvent cette question. C'est le meilleur, le pas meilleur, le si, le ça, Thierry, t'as joué en Italie, j'ai pas joué en Allemagne, mais j'ai dit, en Italie, on sait, tactique. En Espagne, tout le monde dit ouais, le championnat espagnol il est facile à gagner. Il n'est pas facile à gagner. Gagner à l'extérieur en Espagne c'est très très dur. Les gens ils oublient que les équipes qui gagnent facilement, ils gagnent pas facilement non plus. Mais c'est quand même le Barça et le Real. On est en train de parler sur les 5-6 dernières années des deux meilleures équipes au monde. C'est pas une équipe de quartier qui va gagner à l'extérieur un peu partout. Et tu regardes aussi, ils le font aussi en Champions League. Quand tu regardes bien les derniers champions de la Champions League, t'as deux fois Real et trois fois Barça en 10 ans.
Donc c'est le meilleur championnat. Parce que c'est ce qui manque à la première ligue, cette compétitivité au niveau européen, en Ligue des Champions, ils n'y arrivent pas.
Regarde.
Qu'est-ce qui manque à la première ligue? Qu'est-ce qui fait que l'Espagne y arrive?
Je vais revenir à un moment donné, quand je suis parti, un peu avant que je parte d'Arsenal et mon arrivée au Barça, sur 4-5 ans, En demi-finale, il y avait pratiquement que des équipes anglaises. Est-ce que ça veut dire que le championnat était meilleur qu'en Espagne? Est-ce que ça veut dire que les équipes à ce moment-là étaient meilleures qu'un Barça ou un Real? Il y a débat. Là maintenant, quand tu regardes bien, qui gagne l'Europa League? Qui gagne assez souvent la Champions League? Mais après, il y en a qui vont te dire que les matchs en Angleterre sont beaucoup plus difficiles à gagner parce que quand tu mènes 2-0 à l'extérieur, j'ai été voir par exemple Antonio Conte. J'ai été voir Pep Guardiola. Et les deux m'ont dit la même chose. Les matchs qui sont soi-disant plus faciles à gagner en Angleterre sont beaucoup plus durs à gagner que dans d'autres championnats. Ouais. Mais après, moi, je reviens toujours au même débat. Oui, quand tu joues contre Burnley, si ton équipe aime faire le pressing, tu peux pas faire de pressing. C'est surface. Donc, à un moment donné, si tu aimes faire le pressing, tu es mort. Si tu vas en Espagne, si t'es pas prêt à bien faire le pressing et tu vas jouer à l'extérieur, tu vois pas la balle. Tu peux être tout Barça, tout Real que tu es, tu vas pas voir la balle. Les équipes peuvent jouer au ballon comme toi, tu sais jouer au ballon. Donc c'est il y a une différence. Mais je me base sur ce que les coachs m'ont dit. Plus difficile parce que quand il y a un 2-0 en Angleterre, l'équipe en face, même si elle a peut-être pas la qualité d'une équipe en Espagne ou d'une équipe en Italie ou une équipe en Allemagne, elle lâche rien.
Non, elle abandonnera jamais. Thierry Henry avec nous dans Team Duga sur RMC. On revient dans un instant. Il y a encore pas mal de sujets à aborder, notamment le rôle de consultant qui fait partie de votre vie, Thierry, puis l'actu du foot anglais. Faut qu'on dise un mot de Pep Guardiola également, que vous avez connu comme entraîneur, évidemment, que vous avez côtoyé au Barça. À tout de suite dans Team Duga.
RMC, 18h-20h. Team Duga.
Alors évidemment, puisqu'on vous l'a dit, hein, l'émission est enregistrée cet après-midi, difficile de vous donner la parole sur le hashtag RMC Live ou au 3216. Rendez-vous à partir de 20h dans Manu & Coach pour revenir sur cette interview de Thierry Henry qui est avec nous sur RMC avec Duga, donc en direct de Londres. Thierry qui est en train de lire les petites feuilles de Duga. Non mais
il apprend.
Mais Thierry, faut pas se moquer de Duga animateur.
Jamais. Je n'oserais pas. Pierre Belmar, attention quand même.
Ça vous tenterait pas ça, un jour, d'être animateur radio?
Non, je sais pas. Je sais pas, mais non.
Pour l'instant non. Pour l'instant non.
D'accord. Et l'exercice de à la télé de consultant, c'est un exercice qui vous plaît?
Oui, 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 parce que ça me permet aussi de voir le foot d'une autre façon. Ça me permet aussi de comprendre un peu plus aussi le côté média.
Ouais.
C'est vrai que avant je comprenais pas pourquoi certaines personnes posaient des questions et ceci, cela. C'est vrai que là je comprends un peu mieux. C'est vrai qu'au début c'est pas évident.
De familiariser aussi avec les journalistes de ce monde-là.
Oui.
Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on est un peu en confrontation, les journalistes. Donc, de savoir à qui tu parles, comment ils fonctionnent, comment est leur façon de travailler.
Bien sûr.
C'est aussi très intéressant.
Ouais. Mais ce qui est pas évident au départ, c'est de s'adapter à l'analyse juste.
Oui.
C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et bien sûr, des fois, c'est ce que tu dis est repris, bien repris, des fois mal repris. T'essayes d'être honnête par rapport à ce que tu vois. Pas d'être de faire une attaque personnelle, mais tu essaies d'être honnête en ce que tu vois sur le terrain. Est-ce que l'équipe doit faire, apporter, changer, pas changer mais c'est pas toujours évident, surtout quand t'arrêtes au départ. C'est pas évident.
Bah on va y revenir sur vos premiers pas de consultant à Sky et notamment certaines phrases qui ont pris beaucoup d'ampleur sur Arsenal. Quel est le rôle du consultant? Vous avez ce point commun d'avoir des avis assez tranchés du gars. Et Thierry avec nous sur RMC jusqu'à 20h.
RMC, c'est au 32-16,
45 centimes la minute,
et au 7-32-16,
65 centimes par envoi plus prix du SMS.
RMC, Tim Dugas, Christophe Dugarry et Thierry Henry.
Toujours en direct de Londres avec notre rare invité. Eh oui, il est très très rare sur les plateaux télé ou même dans les radios. Donc on est ravis de recevoir Thierry Henry, bien évidemment, avec qui on doit encore aborder plein de sujets, mon ami.
Exactement, et notamment donc ce rôle de consultant à la télé. Vous avez ce point commun, hein, Dugas et Thierry. On peut peut-être aller au bout des choses sur ce sujet, puisque on a l'impression, et forcément ça doit être le cas en permanence en Angleterre, Thierry, comme vous êtes notamment une légende d'Arsenal, toutes vos prises de position doivent être énormément reprises et doit y avoir une caisse de résonance énorme. Mm-hmm. Nous, en France, on a notamment été marqués dans vos débuts comme consultant sur cette phrase concernant Olivier Giroud. Vous aviez dit à l'époque, avec Olivier Giroud, ce sera difficile de gagner un titre pour Arsenal. Est-ce que à ce moment-là, vous avez découvert cette fameuse caisse de résonance dont je parlais?
Ouais, surtout au niveau d'Arsenal. Dès que je parle d'Arsenal, et c'est quelque chose qui peut exploser, ça sort tout de suite. Par contre, dans le positif, ça sort pas souvent. Pour revenir à ce que, déjà, c'est pas comme ça que je l'ai dit.
Sur les Giroud, et précisez-nous
pour commencer. Mais faut commencer par le commencement. Olivier était dans une série de marqués pendant 5 matchs avant d'aller à Burnley. Et je l'ai encensé. Plus qu'encensé d'ailleurs. J'ai dit que si c'était Agüero qui avait ce nombre de buts, je crois qu'il avait 5 buts en 4 matchs ou quelque chose comme ça.
Un ratio
exceptionnel. Bon. Si c'était un autre joueur, comme cette année d'ailleurs, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et j'ai vu ça nulle part.
Oui, c'est moins repris.
Non, par contre, je comprends pas. J'ai vu ça nulle part. Non, parce que je me demande. J'ai vu ça nulle part.
Ouais.
Ce qu'il faisait et ce qu'il fait là cette année, c'est extraordinaire. J'ai vu ça nulle part encore, toujours. Je le redis, j'espère que ça va être repris quelque part. Si on m'entend. Allô? Non. C'est important. Parce que c'est facile de prendre quand il y a un débat sur un truc qui est un peu négatif. Mais avant ça, là, j'ai quand même dit ça. Donc,
c'est les règles du jeu, ça, Titi.
Non, mais on me donne une opportunité de parler, donc
de préciser.
Parle. Voilà. Non, mais pour revenir avec Olivier. La question posée, donc, c'était un match qu'ils avaient, je sais plus, à la maison. C'était fin de saison, je pense. On me pose la question, qu'est-ce que Arsenal doit changer l'année prochaine pour gagner le titre? Très important quand même d'avoir une question pour comprendre pourquoi quelqu'un dit quelque chose. Donc j'ai dit, arrêtez d'avoir des blessures comme ils ont à chaque fois à répétition. Avoir une colonne dans l'équipe costaud.
Colonne vertébrale.
Acheter un défenseur. Acheter un gardien et acheter un autre attaquant qui puisse soulager Olivier et que cet attaquant soit l'attaquant phare, le numéro 1, et Olivier peut rentrer, faire ce qu'il a à faire parce qu'il est exact, il est très fort dans ce qu'il fait. Et après, donc il y a Jamie Carragher qui est rentré, il m'a dit, il m'a posé une question, j'ai dit non, c'est pas ça. J'ai dit juste que si Olivier, c'est lui le 1, je ne sais pas s'il peut tenir toute une saison avec l'importance de marquer à chaque match sur son dos. Voilà où je reviens, numéro 1, attaquant phare. Et l'évolution des choses fait que cette année, il commence un peu moins. Des fois, c'est Alexis Sanchez qui commence. Mais quand il rentre, il fait ce qu'il a à faire. Il joue, il marque, il est très bon dos au but. Et je dis bien souvent, j'aurais aimé jouer avec lui. Moi, il aurait pris tous les coups, faire des remises. Donc, voilà ce que j'ai dit. Et n'oublions pas que j'ai dit aussi, il faut aussi que Mesut Özil augmente son niveau de jeu. Ouais. Chose qu'il a fait l'année dernière et qu'il fait un peu moins cette année. Ah, donc, il y avait plein de trucs. Donc, je trouve que c'est un peu dommage des fois. Mais bon, faut savoir aussi que, comme Duga l'a dit, c'est comme ça. Et surtout quand on parle d'Arsenal, mais je reviens encore une fois, ce que fait Olivier Giroud, c'est extraordinaire. Mais je vais vous poser une question.
Non, c'est nous qui posons la question ici.
Non, je vais vous poser une question. Tu m'as dit, je peux faire ce que je veux. Non, mais est-ce que vous vous rappelez du match contre l'Allemagne?
Oui.
D'accord. Contre l'Allemagne. Quand finalement.
À l'Euro, là.
Oui. Quand Dédé a commencé à mettre Olivier et Antoine Griezmann derrière. D'accord. Je pense que c'était quelque chose que tout le monde attendait et tout le monde voulait.
Demi-finale de l'Euro,
Donc Olivier dans son registre et Griezmann dans son registre. Mais je vous pose une question. Si Griezmann ne marque pas les deux buts contre l'Allemagne et Griezmann joue à droite ou Griezmann ne joue pas, on attaque qui?
Ben, je sais pas. Giroud.
Mais qui a marqué?
Ouais, c'est Griezmann.
Donc chacun son rôle.
Très bien. Ouais. On va enchaîner. On va te parler un peu de la Ligue 1.
C'est clair.
L'actualité de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, Monaco, tu suis un peu le duel à distance entre ces deux équipes.
Encore plus cette année, Monaco.
Ah oui, quelle équipe t'impressionne le plus?
City. Monaco en Ligue des Champions. En plus, j'ai joué là-bas, j'ai été les voir cette année, j'ai été très bien accueilli d'ailleurs, merci. Mais Monaco de par ce combo jeune, expérience, efficacité et ce que fait le coach là et je sais, croyez-moi, que c'est pas facile de gagner un titre à Monaco. Ils ne l'ont pas encore gagné.
Ouais, avec l'ambiance, les supporters, l'atmosphère.
Et j'adore Monaco. J'ai revu des gens qui étaient là-bas depuis très longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient mourir pour ce club, mais c'est pas facile de gagner un titre à Monaco.
Monaco est favori.
Ah oui, et de loin.
Pour la Ligue 1.
Ouais. Pour la Ligue 1.
Ouais. Et pour moi, personnellement, même de ce que je vois.
Ouais, même pour gagner la Ligue des Champions. Ah, écoute,
attention, Duga.
Pose la question, monsieur Thierry Henry va répondre.
Attention. Monaco a une histoire en Champions League qui est quand même belle. Pas souvent qualifié, mais quand Monaco se qualifie, vont loin.
Ils font pas la figuration.
On a été en demi, ils ont été en finale, une fois avec Arsène aussi avant, ils ont été en demi. C'est quand même une équipe qui a l'habitude, ils ont gagné à Tottenham. Ils ont gagné à Arsenal et ils ont gagné à Chelsea.
Ils vont se qualifier contre City.
Ils aiment bien les Anglais.
J'ai juste dit la dernière fois, il n'y a pas longtemps, attention à Monaco quand même. Par contre, là, Gabriel Jesus qui revient et leur façon de jouer et leur façon de presser maintenant, comme je sais comment Pep aime presser, ça va être peut-être un autre City. Mais Lemar, Mbappé, Silva, j'adore les deux
Bakayoko.
Au milieu.
Et
les deux attaquants.
Non, et les deux latéraux.
Ah, les latéraux, ils sont
très. Oh,
Mendy et Sidibé.
Et puis, ça tient aussi. T'as un gardien qui fait ce qu'il a à faire quand il doit le faire. T'as aussi, à chaque fois, le mec qui rentre, qui met son but quand il faut. T'as la chance, j'aime pas dire ce mot parce qu'il la provoque. Mais à chaque fois qu'il fait un changement, à chaque fois qu'il change quelque chose, il y a but.
Monaco, donc, qui a ses chances face à Manchester City. On va parler dans un instant également de Pep Guardiola, donc, avec City. Et puis, il y a le PSG. Et puis, il y a certains moments de votre carrière. Thierry, on continue d'aborder tout ça ensemble dans Team Duga sur RMC. On est ensemble jusqu'à 20h pour cette émission exceptionnelle.